est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sistas d'une ex 40 comme vous ne les avez jamais entendues. Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sistas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Nous sommes dans une société dite connectée, et pourtant il y a de plus en plus de situations d'exclusion et d'isolement. Selon mon invité du jour, nous sommes même toutes et tous responsables. Nous sommes toutes et tous une partie du problème et sûrement une partie de la solution. Mon invité du jour a dirigé le réseau social Vraiment Social, l'association au joli nom et non moins évocateur d'Entourage. Mon invité est donc Lucie De Clercq, cofondatrice et administratrice d'Entourage. Bonjour Lucie.
Bonjour Solène.
Merci d'avoir accepté de venir à notre micro. C'est Jérôme Mercier, lors de son 40 nuances de Next en plein cœur de Vivatech, qui t'a choisi comme Sista pour cet épisode exceptionnel. Lors de son interview, il a promu l'association, car je crois qu'il fait partie du board.
Il fait partie même des cofondateurs.
Même des cofondateurs, voilà, d'Entourage. Et il l'a défini comme une ONG 2.0 qui met le grand public au cœur de son dispositif. Il a dit aussi que c'était une association porteuse d'innovation par la tech sur du social. Je trouvais ça intéressant comme approche. Alors, petite spoiler alerte, au moment où nous tournons, tu as quitté tes fonctions de DG depuis quelques mois. Et tu es en phase de passation, donc tu vas aussi nous parler de cette phase de transmission dans une association. Mais avant ça, on a une petite tradition sur 40 nuances de Sista, c'est celle du pitch. Alors je sais qu'Entourage n'est pas une entreprise mais une asso, mais je pense que vous aussi, vous êtes rompu à l'exercice. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Je te laisse la main pour nous raconter Entourage.
Alors, Entourage, c'est une social tech et notre signature, c'est on est le réseau social vraiment social. On est là pour aider les personnes en grande exclusion à retrouver des réseaux de soutien sur lesquels s'appuyer pour se réinsérer. Et on le fait par la tech en mobilisant les citoyens et en aidant les citoyens à s'engager autour des personnes en grande exclusion par différentes plateformes digitales. La conviction très forte qu'on a chez Entourage, c'est que le vrai problème de la pauvreté, c'est pas un problème matériel, c'est un problème relationnel. C'est parce que les gens sont très isolés dans la société qu'ils tombent dans la grande précarité, et c'est aussi parce qu'ils sont très isolés dans la société qu'ils peuvent pas retrouver leur place. Et donc, au-delà de tout ce que les acteurs de l'urgence ou de l'accompagnement vont pouvoir proposer en termes de retour à l'emploi, accès au logement ou accès aux besoins dits essentiels que sont la nourriture, la santé, les vêtements, etc. Nous, on est absolument convaincus chez Entourage que l'homme est un animal social. On a tous besoin d'être entouré, on a tous besoin d'exister dans les yeux des autres, on a tous besoin d'être aimé. Et chez Entourage, on veut aider les personnes en grande exclusion, non pas à retrouver un toit ou de la nourriture, mais à retrouver un réseau de gens qui vont les entourer, qui vont les aider et qui vont leur permettre de retrouver leur place dans la société.
Et alors concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors concrètement, on a différents programmes. Aujourd'hui, on a trois programmes. Le premier programme s'appelle Réseau Entourage, notre programme historique. Il s'appuie sur une application mobile qui va chercher à recréer du lien social entre habitants et personnes sans domicile.
D'accord.
L'objectif, c'est de mobiliser les voisins, de mobiliser des gens comme toi et moi. Donc, cette application, elle s'adresse au grand public. Tu peux la télécharger, tout le monde peut la télécharger. Il y a déjà 160 000 personnes qui l'ont téléchargée aujourd'hui. Et au travers de cette application mobile, tu vas pouvoir accéder à des contenus pédagogiques qui vont t'aider à comprendre le sujet de la grande exclusion, déconstruire un certain nombre de préjugés ou de peurs que tu peux avoir et te donner des conseils pour aller à la rencontre des personnes sans domicile de ton quartier. Tu vas pouvoir retrouver une programmation d'événements dans lesquels tu vas pouvoir aller tout simplement rencontrer des personnes qui ont des parcours de vie complètement différents de toi. Et puis, tu as aussi une plateforme d'entraide sur laquelle les uns et les autres peuvent demander de l'aide ou au contraire proposer leur aide. Moi, il n'y a pas très longtemps, je l'ai utilisé pour pour une dame pour laquelle je cherchais des vêtements. Et j'ai un certain nombre de riverains qui m'ont apporté des choses dont j'avais besoin. Et j'ai pu, par cette manière-là, aider cette dame. Mais la finalité du réseau Entourage, c'est vraiment de rapprocher les habitants des personnes sans domicile et de créer cette communauté de rencontre et d'entraide à l'échelle du quartier, autour et avec les personnes en grande précarité.
Et comment vous avez fait au départ pour faire connaître l'app et faire en sorte, parce que des apps, on en a plein tous, et faire en sorte que les gens la téléchargent, qu'ils aient aussi le réflexe de l'app et qu'elle puisse vivre, en fait, parce que c'est ce genre de projet, ça marche si les gens sont dessus.
Absolument, ouais, absolument. On a vraiment de la chance, notamment via Jérôme Mercier. On a été dès les débuts accompagnés par une super agence de com qui s'appelle TBWA et qui nous a aidés sur toute la plateforme de marque au départ et puis les premières campagnes de communication. Et aujourd'hui, on a la chance d'être toujours accompagnés par TB, mais d'avoir en plus de ça un certain nombre de moyens mis à disposition par des partenaires. On a un bateau depuis 3 ans, un bateau qui court les plus grandes courses au large, qui a gagné la dernière Route du Rhum, qui a gagné la dernière Transat Jacques Vabre et qui a d'abord porté les couleurs de notre projet Linked Out, qui était le deuxième projet dont j'allais te parler juste après, qui est un projet qui est comment est-ce qu'on mobilise un réseau citoyen pour aider des personnes en grande exclusion à accéder à l'emploi, qu'on avait appelé Linked Out, évidemment, en référence à LinkedIn, en clin d'œil à LinkedIn. Donc, on a ce bateau qui nous aide aussi à nous faire connaître, des campagnes de com, le bouche à oreille, bien sûr, comme n'importe quel produit, en fait, qui a besoin de se faire connaître.
Comme tu parles de ce programme, je lance une question surprise.
Vous avez un message.
Bonjour Lucie, c'est Étienne de Madinès. Ma question porte aujourd'hui sur le succès de la campagne Linked Out. Je suis très curieux de connaître la genèse de cette idée, car je la trouve brillante et très bien exécutée. Et est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues de ton côté à ce niveau-là ?
Ça tombe à pic, cette question.
La genèse de Linked Out, c'est toute une histoire. Donc, Entourage a été fondé en 2014 et a vraiment commencé à déployer sa première app à partir de 2016. Et donc, il y a eu en 2016, 2017, 2018, 2019, une croissance de la communauté d'utilisateurs de l'application Entourage. On était présents à Paris, on s'est étendu à Lyon, puis à Lille, puis à Rennes. Donc voilà, Entourage, le projet du coup de création de liens sociaux entre habitants et personnes sans domicile, faisait son petit bonhomme de chemin et grandissait bien. Et puis, il y a eu un peu une concomitance de plusieurs choses. D'abord, il a commencé à y avoir des histoires assez extraordinaires au sein du réseau Entourage, de gens qui arrivaient à retrouver un job par la mobilisation du réseau. Je prends l'exemple, par exemple, de Eric. Eric, qui est dans le comité de la rue Entourage, puisque Entourage a un comité de la rue qui sont des personnes qui ont connu la rue et qui nous aident à prendre toutes les décisions, à être au plus juste des besoins. C'est une gouvernance participative comme ça avec les premiers concernés qui est vraiment
qui est intéressante.
Très spécifique et ultra intéressante et riche à vivre au quotidien. Mais donc voilà, Eric, on l'a connu, Eric, parce qu'il faisait la manche au métro Rome. Et nous, à l'époque, nos bureaux étaient au métro Rome. Et donc, on est allé voir Eric, on a créé un peu de lien avec lui. On l'a invité à un événement qu'on organisait. Il est venu à un, puis deux, puis trois événements. Puis il a accepté d'être l'égérie de notre campagne de dons de Noël. Et puis voilà, il est devenu bénévole chez nous. Et un jour, on emmène Eric témoigner en entreprise de son parcours de SDF, concrètement. Et puis, dans l'entreprise dans laquelle il est venu témoigner, le DIRCOM de cette entreprise qui était présent à l'atelier est venu le voir et lui a dit « Écoute, si t'es prêt à bosser, moi, je suis prêt à te proposer un boulot. » Et Eric a comme ça retrouvé un boulot. De la même manière, il y avait Kenny aussi qui était dans notre comité de la rue et il n'arrivait pas à trouver un job. Et nous, on ne comprenait pas parce que Kenny, il est vraiment un enfant qui a eu un parcours de protection de l'enfance et qui est tombé à la rue à la sortie de la protection de l'enfance. Et ça faisait quelques années qu'il était proche de notre association. Et Kenny, il est génial, mais il n'a pas évidemment le bon CV, il n'a pas le bon réseau, il n'a pas les codes, il ne sait même pas où chercher. Et donc, Jean-Marc, le fondateur d'Entourage, a dit à Kenny, je suis sûre que dans mon réseau, j'ai quelqu'un qui te trouve un job. Il a posté le CV de Kenny sur les réseaux et deux jours après, on avait trouvé un boulot à Kenny. Donc, il y a eu quelques histoires comme ça où on s'est dit, mais en fait, ça fait 3-4 ans qu'on développe ce réseau citoyen autour des personnes sans domicile. Mais de la même manière, on pourrait développer un réseau, mais plus orienté accès à l'emploi. Nous, on a du réseau, eux en ont pas, on pourrait leur faire bénéficier de ce réseau-là. Et donc, on a commencé à travailler cette idée-là et avec TBWA, notre agence de communication, qui nous a très justement proposé de l'appeler Linked Out.
Vous avez eu le problème avec la firme américaine ?
Ça n'a pas été toujours simple, les relations. On a essayé quand même de les contacter au moment où on a lancé la campagne. On n'a pas eu de réponse tout de suite, mais du coup, on s'est parlé après la sortie de...
Une fois que la campagne était lancée,
exactement,
ils vous ont regardé.
Exactement. Et finalement, ils ont accepté de nous laisser utiliser ce nom Linked Out, du coup, pour une durée de 5 ans. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de déployer ce programme qui a aujourd'hui accompagné 500 personnes. Il y en a près de 70% qui ont trouvé une sortie positive, comme on dit dans le jargon, grâce du coup au réseau de gens qui se sont mobilisés pour les aider. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et c'est sûr que le nom Linked Out a fait pas mal mouche, je pense, pour expliquer ce qu'on voulait faire. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, que ce soit dans le domaine du job ou n'importe quel domaine, voilà, on est un réseau. On peut s'entraider et c'est comme ça en fait qu'on va réussir à résoudre l'exclusion. On est tous une partie du problème, tu le disais dans ton introduction, on est tous une partie de la solution. On peut tous entourer quelqu'un, on peut tous lui ouvrir la porte, lui donner l'opportunité qui va changer sa vie.
Et pour compléter la question d'Étienne, vous avez d'autres projets comme Linked Out dans les cartons?
Alors, le gros sujet du moment, le gros projet actuellement, c'est une initiative autour du sport. Comme je te disais, on a eu la chance de rencontrer un skipper et son sponsor Advance qui nous ont proposé de porter nos couleurs. Et donc, ça fait 3 ans qu'on fait de la course au large. Et ça a été l'occasion pour nous de voir à quel point le sport de haut niveau comme ça, c'est un super levier médiatique pour faire parler de ta cause. Mais c'est aussi un super levier pour faire rêver les gens et pour créer du lien et pour créer des moments de partage, de ferveur partagée hyper fort. Nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on emmène des personnes en exclusion sur les pontons de course au large, au départ de course au large. On a reproduit le dispositif avec une équipe de foot qui s'appelle le Red Star. Et grâce à l'appui de Randstad, on a été partenaire maillot principal du Red Star, qui avait du coup notre logo en gros là, sur la face avant maillot. Et donc, de la même manière, on a emmené des personnes avec et sans domicile vivre ensemble des moments de
partage, de ferveur, et d'expérience et
au Stade Bauer, autour des exploits du Red Star. Et donc, ça nous a vraiment donné l'idée de développer une vraie initiative autour du sport pour faire en sorte que les personnes en grande exclusion puissent accéder à la fois au sport en tant que passion, pouvoir avoir leur place dans les stades, pouvoir avoir leur place dans les tribunes, pouvoir avoir leur place sur les pontons et partout, mais aussi puissent intégrer des clubs de sport amateurs, toujours dans cette idée de redonner un réseau à ceux qui n'en ont pas. Finalement, toi, ton réseau, il vient d'où? Ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues et tes réseaux affinitaires, donc les clubs de sport ou autres culturels dans lesquels tu es engagé. Et c'est un peu avec Entourage, on redonne un réseau de voisins et d'amis. Avec Linked Out, on redonne un réseau de collègues. Avec Entourage Sport, on redonne un réseau affinitaire autour du sport. Et comme c'est l'année des Jeux Olympiques cette année, pour nous, il n'est pas question que les personnes en grande exclusion soient écartées de cette grande fête qu'il va y avoir autour des Jeux. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur de lancer cette initiative Entourage Sport. Et voilà, on discute pas mal avec le COJOP en ce moment pour essayer d'avoir une participation active des personnes en grande exclusion à cette fête des Jeux. On réfléchit aux formes que ça peut prendre, mais voilà, c'est pour nous important que Paris 2024 fasse rêver tout le monde.
Parce que ça, c'est aussi un sujet, Paris 2024, avec ces hôtels, par exemple, qui peuvent accueillir des gens en très grande précarité et où il est question de peut-être très sûrement les expulser pour récupérer ces chambres d'hôtel pour les louer parce que, alors, c'est un secret pour personne, mais il y a une espèce de ferveur autour du prix de la nuit pendant les JO. Votre programme, il va à l'encontre de ce marché qui s'envole.
C'est sûr que les personnes en grande exclusion seront les premières impactées par les aspects négatifs des Jeux. Si on parle du sujet des personnes sans domicile, il y a la question des hôtels sociaux où effectivement on est en train de déplacer les personnes pour pouvoir récupérer ces hôtels pour accueillir les touristes. Il va y avoir aussi beaucoup de questions autour des zones sécurisées et comment est-ce que tous les dispositifs de distribution alimentaire et autres vont pouvoir se maintenir pendant les Jeux et les contrôles de sécurité aussi qui vont toucher du coup beaucoup les personnes qui sont à la rue. Donc là, il y a des acteurs qui se mobilisent assez fortement sur ces sujets-là et c'est absolument essentiel et nécessaire. Mais il y a l'autre pendant des Jeux qui est le pendant de la participation, qui est de dire aussi en fait, pour beaucoup de personnes en grande exclusion, elles aiment le sport. Le sport, ça les fait rêver. Les Jeux, elles s'en réjouissent, à vrai dire, et elles ont envie de les vivre fort. Elles ont envie que ça fasse battre leur cœur et que ce soit aussi l'occasion de vivre de grandes émotions. Et donc là, on est pleinement dans la mission d'entourage qui est comment est-ce que les personnes en grande exclusion participent pleinement à la société? Comment est-ce que le corps social dont toi, moi, on fait partie laisse une place pleine et entière à ces personnes-là? Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de se focaliser plutôt sur cet aspect-là des Jeux Olympiques.
C'est ce que tu appelles utiliser la tech de façon positive?
Alors, la tech positive, c'est quelque chose qu'on a théorisé assez rapidement chez Entourage dès les débuts. On a été beaucoup challengés hein, quand on a débarré chez Entourage. Le secteur du social est un secteur qui, aujourd'hui, avait plutôt une mauvaise image de la tech. Quand on a démarré, il y avait pas mal de méfiance. En plus, Entourage a été fondé par Jean-Marc Potvin, qui, lui, est quelqu'un qui vient du domaine de la tech et pas du tout du social. Et donc, il y avait un peu cette interrogation sur... qu'est-ce qu'il veut sur le sujet des personnes sans domicile et qu'est-ce qu'il vient faire? Et on parlait beaucoup de ubériser à l'époque. Et donc, il y avait toute cette question, est-ce qu'il vient ubériser le travail social avec l'application Entourage et quid de la géolocalisation, etc. etc. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la place de la tech, sur l'éthique de la tech telle qu'on allait l'utiliser chez Entourage et sur ce qu'on cherchait à faire. Et ce qu'on met derrière tech positive, nous, chez Entourage, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux qui se sont développés, mais le fonctionnement des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de, quelque part, virtualiser les relations, donc faire en sorte que des gens qui se connaissent dans la vraie vie se connaissent, interagissent plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Et ça a tendance à maintenir les gens, du coup, dans des bulles et des sphères qui sont celles de leurs idées. Donc, quelque part, ça va plutôt réduire la capacité des gens à aller vers des gens qui pensent différemment d'eux, vers des gens qui n'ont pas les mêmes parcours de vie qu'eux, etc. Entourage, c'est exactement l'inverse. C'est comment est-ce qu'on utilise la tech pour aider des gens à se connecter dans la vraie vie alors qu'ils ne le feraient pas. Les gens, aujourd'hui, ne vont pas vers les personnes sans domicile. Comment est-ce qu'un outil tech peut leur donner les bons outils, les bonnes occasions d'aller rencontrer dans la vraie vie des gens avec lesquels ils n'arrivent pas à interagir aujourd'hui? Et comment est-ce que ça peut favoriser le fait de recréer du lien entre des gens qui n'ont rien à voir, qui vivent quelque part dans les mêmes quartiers, qui partagent le même territoire, mais qui vivent dans des réalités complètement différentes? C'est pour ça qu'on appelle ça la tech positive.
Tu as parlé d'impact. Quel impact Entourage a eu depuis sa création?
Alors nous, on a réellement démarré, du coup, la première app Entourage est sortie en 2016. Linked Out est sortie en 2020. Et du coup, pour donner quelques chiffres, il y a à peu près 20 000 personnes sans domicile qui ont été touchées par nos actions depuis les débuts d'Entourage. Mais c'est un chiffre qui augmente chaque année. L'année dernière, c'était 5 000 personnes sans domicile qui ont été entourées d'une manière ou d'une autre via Entourage, via Linked Out. Il y a 160 000 personnes, comme je disais, qui se sont créées un compte sur l'application. Alors, évidemment, il y en a bien moins qui l'utilisent réellement.
Qui sont actifs tous les jours, bien évidemment.
Oui. Malgré tout, on sait qu'on en a beaucoup qui n'utilisent pas forcément l'app, mais qui, rien que le fait qu'elles l'aient téléchargée, c'est déjà une première prise de conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans cette affaire-là et un premier changement de comportement. On fait beaucoup d'études d'impact et d'enquête auprès des utilisateurs à la fois actifs et non actifs. Et même chez les non actifs, il y en a une partie très forte qui disent qu'ils ne regardent plus les personnes sans domicile de la même manière, qu'ils se sentent davantage concernés par ce sujet-là, que ça leur a permis déjà de lever un frein pour aller à leur rencontre. Donc voilà. Et concernant Linked Out, on a, comme je te disais tout à l'heure, 500 personnes qui sont passées par Linked Out et près de 70% qui ont trouvé une sortie positive à leur accompagnement avec Linked Out. Il y a quelque chose qui est assez fort chez Linked Out aussi, c'est que il y a près de la moitié des entreprises qui ont recruté un candidat Linked Out qui n'avaient jamais recruté inclusif auparavant. Okay. Et donc, il y a cette capacité d'entourage à aller engager des membres de la société civile qui ne sont pas engagés à la base. Idem pour le réseau Entourage et l'application Entourage. Je n'ai plus le chiffre en tête, donc plutôt que de sortir une stat qui est fausse, mais je sais qu'il y a une part très significative des gens qui téléchargent l'app Entourage qui, jusqu'ici, n'étaient pas engagés dans des associations, etc.
Ouais, exactement. Tu disais recréer du lien social. Comment ça s'est passé toute la période Covid? Parce qu'Entourage existait déjà. Chacun était chez soi, confiné. Comment vous avez fait? Ça a été un atout d'avoir cette app. Est-ce que tu peux nous raconter cette période?
Oui, ça a été un énorme atout d'avoir l'app Entourage parce que ça a été justement un moment où toutes les... En fait, les distributions alimentaires, les systèmes d'aide un peu traditionnels se sont un peu effondrés pendant quelques jours. Il a fallu que tout le monde se réorganise et fonctionne différemment. Et donc, le fait d'avoir une app et une communauté active sur laquelle les gens pouvaient continuer à proposer leur aide, ça a permis en fait d'avoir une réponse immédiate. Et d'ailleurs, on a eu une augmentation très très importante de la fréquentation de l'application et de l'utilisation de l'application pendant cette période Covid, de gens qui se donnaient aussi des coups de main même pour donner des attestations. Je me rappelle, c'était un sujet, les attestations pour les personnes sans domicile à l'époque. Oui. Tu te rappelles cette histoire d'attestation?
Oui.
Donc, on a vu une utilisation très, très accrue de l'application Entourage pendant la période Covid. Et puis, en parallèle, on a monté un autre dispositif qu'on a appelé les Bonnes Ondes, qui était un dispositif de maintien du lien social par téléphone. Parce que du coup, les personnes en grande exclusion étaient soit confinées dehors, soit confinées dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels sociaux dans lesquels elles étaient extrêmement isolées, de la même manière que les personnes âgées ou autres. Et donc, du coup, pour qu'il puisse y avoir du maintien du lien social et que ces personnes-là ne pètent pas un câble, parce qu'en plus de ça, elles sont hébergées dans des lieux qui sont... des lieux qui sont assez difficiles à vivre. Hein. Un hôtel social, je veux dire une chambre d'hôtel, en général, qui n'est pas en très bon état. Ce n'est pas un endroit dans lequel on aime rester 24 heures sur 24. Et donc, voilà, on a eu cette mobilisation de citoyens qui appelaient des personnes très isolées en grande précarité. Donc, c'était des petits groupes. Il y avait 3-4 personnes qui appelaient une même personne. Et on a eu pas mal de groupes qui se sont vus à la sortie du confinement derrière, qui ont gardé le lien. Donc, c'était vraiment...
Ça crée une dynamique.
Ouais.
Tout à l'heure, tu parlais de ton comité de la rue. Tu parlais d'Eric et de Kenny qui, avec une gouvernance participative. Quels ont été vos grands rapports d'étonnement, en fait, de les avoir autour de la table? Est-ce qu'il y a des idées que vous aviez et en fait, eux vous ont dit, mais alors pas du tout, vous fourvoyez totalement. Qu'est-ce que ça a apporté justement de les avoir autour de la table?
Déjà, le premier rapport d'étonnement et qui en fait conduit à la création du comité de la rue a été un déplacement de la compréhension du problème. Quand Jean-Marc a voulu créer Entourage, l'histoire un peu fondatrice d'Entourage, c'était à l'époque, il était patron de Viadeo. Il allait à pied au boulot et il commençait à saluer les personnes qu'il croisait. Et il y a eu Darius. Et Darius, un matin, a arrêté Jean-Marc qui pleurait et il lui a dit qu'il s'était fait agresser pendant la nuit, qu'il avait ses dents qui étaient cassées. Et il lui disait, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je peux même plus manger mon sandwich. Et Jean-Marc, il a été complètement démuni sur la manière de l'aider, mais il voulait vraiment l'aider. Et il a utilisé du coup son smartphone pour envoyer des posts sur les réseaux sociaux pour trouver un dentiste à Darius. Et ça a été un peu l'histoire fondatrice sur... on a dans nos réseaux la solution. Mais à la base, ils pensaient plutôt à un réseau d'aide matérielle. Et en fait, en allant rencontrer des personnes sans domicile pour affiner son projet et leur demander leur avis sur le projet, c'est là qu'il a entendu dans la bouche de ces personnes « Mais moi, mon plus gros problème, c'est que j'existe pas dans les yeux des autres. Il y a 3000 personnes qui me passent devant, il y en a deux qui me disent bonjour. Je ne vaux pas mieux que du mobilier urbain, j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir. » Et ces paroles-là, en fait, elles lui ont vraiment permis de comprendre qu'en fait, le plus dur à la rue, ce n'était pas ces problèmes matériels. C'était vraiment cette marginalisation sociale et le fait de ne plus exister dans les yeux des autres. Et c'est pour ça qu'on a réorienté Entourage vraiment sur un réseau d'entraide, de rencontres, de liens sociaux, où la première chose qu'on veut que le grand public fasse, c'est de se comporter autrement vis-à-vis des personnes sans domicile, de recréer du lien social avec les personnes sans domicile, parce que c'est un besoin à part entière. On a l'impression qu'on est plus utile quand on donne un sandwich, mais en fait, on est vraiment plus utile quand on s'arrête de discuter avec les uns et les autres. Donc, on va dire que le premier rapport d'étonnement, c'était celui-là, c'était de comprendre ça. Et quand Jean-Marc a entendu ça, il s'est dit, mais il me faut la présence des personnes sans domicile au quotidien dans le projet, parce que sinon, je ne pourrais pas construire des solutions adaptées. Et donc, on a créé et formalisé le comité de la rue, qui se réunit aujourd'hui toutes les deux semaines, qui est composé d'une quinzaine de personnes. Après, il y a des projets qu'ils ont envoyés bouler. La question du don dématérialisé, les gens n'ont plus de monnaie sur eux, les tickets resto se dématérialisent. Alors, comment on fait? Il y a plein d'acteurs du paiement qui sont venus nous voir. Et le comité de la rue a dit, oui, c'est une super idée, mais ce n'est pas pour Entourage. Entourage, c'est le lien social. Nous, si on commence à faire du don monétaire, on va contrevenir en fait à la mission d'Entourage. LinkedOut, ils ont trouvé ça super. En revanche, nous, LinkedOut, on le voyait plus comme une campagne de com. Et eux nous ont dit, ah non, Si on dit qu'on va trouver des jobs aux gens, on trouve des jobs aux gens. Donc, on fait un vrai programme et on se débrouille pour que ça crée des débouchés positifs. Donc, on n'a pas fait la campagne de com en un mois ou deux comme on le pensait. On a mis 6 mois, 1 an à construire un vrai programme qui tienne la route et on l'a lancé différemment. Récemment, TBWA nous a proposé de faire une campagne de com autour du métaverse. Créer Will, le premier sans-abri du métaverse. Alors nous, quand ils nous disent ça, on se dit « Ah là là, c'est risqué quand même cette affaire-là, créer un sans-abri virtuel. » Eh bien, c'est là que c'est trop génial d'avoir un comité de la rue, parce qu'on va voir le comité de la rue, on leur propose, et s'ils disent oui, mais on peut y aller avec sérénité. En fait, ce que j'ai ressenti depuis les débuts d'entourage, c'est que quand le comité de la rue trouve que c'est une bonne idée, même si c'est une idée qui est risquée, même si c'est une idée qui provoque, même si c'est une idée qui casse-gueule, on y va avec sérénité parce qu'on sait qu'on est au bon endroit, à la juste place et tout ça. Donc moi, je trouve que c'est une boussole extraordinaire.
Et ils ont dit oui.
Et ils ont dit oui pour Will, le premier sans-abri du métaverse. Et ils ont passé un bon paquet de temps avec les équipes de TBWA pour dessiner Will, lui donner son nom, lui donner sa voix. Parce qu'ils ont dit OK pour le premier sans-abri du métaverse.
Mais pas n'importe quoi.
Mais on veut pas, là encore, qu'il soit en haillon avec une barbe de je sais pas quoi. On va pas tomber dans ce cliché-là de la représentation de la personne sans domicile. Donc voilà, c'était très rigolo de voir les créatifs de TB bosser avec le comité de la rue pour dessiner Will.
C'est une super expérience.
Ah bah moi, de toute façon, tous ces moments-là où on se retrouve à créer des connexions entre des mondes qui n'ont rien à voir, j'adore.
Même le making-of peut être intéressant.
Exactement.
En termes de com. Comment, parce que donc vous êtes une association, on en parlait tout à l'heure. Comment vous vous financez aujourd'hui?
Alors, on a un modèle de financement qui est très classique pour une association. On a à peu près 35% de nos financements qui sont des financements publics de l'État ou de collectivités locales. On a 40% de nos financements qui viennent d'entreprises, de fondations d'entreprises, et on développe de plus en plus de formats d'engagement des collaborateurs, de sensibilisation d'entreprises ou d'accompagnement au recrutement inclusif pour embarquer les entreprises à nos côtés. Et puis, on a de la philanthropie individuelle, de petits donateurs ou de grands donateurs.
Je crois qu'il n'y a jamais de petits donateurs, non?
Non, oui, bien sûr. Mais disons qu'il y en a qui... voilà. Ont des niveaux de revenus qui leur permettent de contribuer à des montants un peu plus significatifs. Je pense que comme toutes les social tech qui démarrent avec un ADN très entrepreneuriat, assez pro-business finalement, et avec un fondateur qui venait du business, on s'est dit on va trouver un modèle économique qui tienne la route, on va développer des produits et services qu'on va réussir à monétiser, etc. Moi, j'en reviens un petit peu aujourd'hui de ce mythe de trouver un autofinancement parfait. Quand on est une structure d'intérêt général, il faut aussi assumer le fait que on n'est pas sur un sujet sur lequel il y a un modèle marchand qui tienne la route, et c'est pas grave. Il faut assumer, voilà, que notre mission à nous, c'est d'aider les personnes SDF à retrouver leur place dans la société et d'avoir un modèle économique qui nous permettent de mener pleinement cette mission et non pas d'essayer de chercher une valeur pour d'autres acteurs que les personnes fragiles qu'on souhaite accompagner.
Comment toi, t'es tombée dans cette histoire?
Alors vraiment, un peu par hasard et par les rencontres et le réseau, hein, la force du réseau. Moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. À la sortie de mon école de commerce, je pense que j'étais assez convaincue que j'allais avoir du mal à trouver une motivation très forte dans le fait d'aller dans un business classique dont la finalité serait d'augmenter les bénéfices pour les actionnaires. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat social. J'ai rencontré...
Qui était assez balbutiement, j'imagine.
À l'époque, c'était quand même le début. Maintenant que j'y pense, c'était vraiment...
Pas que je veux beaucoup de vieilles.
Non.
Mais par rapport à... Je pense, parce que dans ton discours, je me disais... Elle était quand même très avant-gardiste, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les générations qui viennent de quitter les écoles. Et d'ailleurs, c'est des mouvements qui se mettent en place. Mais dans nos générations, ce discours était moins répandu.
Non, mais c'est vrai que c'était un peu... Alors, l'ESSEC était assez avant-gardiste là-dessus. L'ESSEC avait un programme, une chaire innovation sociale bien avant d'autres écoles de commerce. Donc, il y avait un réseau d'anciens qui, là-dedans, qui était plus important que dans d'autres écoles. Enfin bref, à ce moment-là, j'ai rencontré Anne Roosevelt qui avait monté une ONG de santé autour des enfants en Afrique de l'Ouest. Et donc, il m'a proposé de la rejoindre d'abord bénévolement et ensuite à temps plein. Donc, j'ai passé 5 ans dans cette ONG, mais qui était un projet en démarrage. Hein, donc, il y avait cette même dynamique entrepreneuriale, cette envie de prendre les choses différemment, cette composante technologique à l'époque n'était pas aussi poussée que chez Entourage, mais qui était déjà là. Et donc voilà, j'ai passé 5 ans entre la France et le Mali à travailler sur le sujet de la santé des enfants et de comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès aux soins des familles. Et puis au bout de 5 ans, il y a eu voilà des questions personnelles. Hein. J'ai rencontré le père de mes enfants, le futur père de mes enfants en France. Et puis, la situation sécuritaire qui s'était pas mal dégradée au Mali et qui faisait que ça commençait à devenir inconfortable de travailler là-bas. Et puis, je pense qu'on est assez rapidement rattrapé aussi par des questions autour de est-ce qu'on fait vraiment du bien ? Enfin, voilà, je pense que quand on est dans la solidarité internationale, c'est dans ces pays voilà, avec lesquels la France a une histoire aussi particulière. C'est pas toujours simple de savoir si on est au bon endroit ou pas. Et puis, le réseau m'a fait rencontrer Jean-Marc, qui avait le souhait de lancer Entourage et qui cherchait à constituer une équipe pour porter le projet. Je ne m'étais pas vraiment dit que les personnes sans domicile, c'était un sujet qui allait vraiment m'accrocher. Et en fait, ces 7 dernières années, je pense que j'ai eu l'impression de vivre une transformation quand même intérieure extrêmement forte. J'ai rapidement compris que le sujet, ce n'était pas les personnes sans domicile. C'était le sujet de la fraternité, de la place des plus fragiles dans la société, de la relation à l'autre, de la relation à des personnes qui ont des parcours de vie différents. Et ça m'a vraiment passionnée. Et vraiment, je pense que toutes les rencontres que j'ai faites chez Entourage, que ce soit avec les membres du comité de la rue ou toutes les personnes en précarité que j'ai rencontrées au sein de l'association, que ce soit avec l'écosystème tech de Jean-Marc, les chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés dans le démarrage du projet, Jérôme et d'autres personnes, avec le monde du sport, là, plus récemment, avec tous les acteurs traditionnels de la lutte contre l'exclusion, les grosses et petites associations qui œuvrent sur ce sujet-là. J'ai trouvé que j'avais passé des années d'une richesse incomparable et qui m'ont vraiment ouvert les chakras de manière extrêmement forte.
Et un jour, tu te dis, peut-être que je passe à autre chose.
Bah, ça fait 7 ans et demi, hein, quand même, que je suis engagée chez Entourage. Le projet s'est énormément développé. On était une petite équipe de 3 quand j'ai démarré. Là, je quitte, on a une 60aine de permanents, on a 400 bénévoles, on a des antennes dans une 10aine de villes ou de territoires en France. On avait un programme, le Réseau Entourage. Maintenant, on a 3 programmes, Réseau Entourage Linked Out et Entourage Sport. Je pense que c'est la question de toute personne qui a porté un projet comme ça depuis ses débuts, de se demander quel est le bon moment pour passer la main.
Ce qui n'est pas toujours une question facile.
Non, ce qui n'est pas une question facile. Et en même temps, on voit vraiment aussi des personnes qui font l'erreur de rester trop longtemps. Et ce qui, au bout d'un moment, finit par nuire au projet. Qui se croient indispensables trop longtemps et qui sclérosent un peu leur projet, en fait. Donc moi, j'avais déjà peur de ça, quand même. Il y a eu la deuxième chose, c'est que, un moment, un peu une perte d'énergie, pas une perte de motivation pour le projet, mais un peu de fatigue. Et en fait, ce projet est tellement magnifique et il a tellement de potentiel que je me suis dit, mais en fait, il a besoin de vitalité et il faut que la vitalité soit toujours aussi forte à sa tête. Et puis aussi, le sentiment qu'il est bon de voir autre chose. On grandit aussi en voyant des choses différentes. Mais j'ai vraiment la chance, avec Entourage, de pouvoir rester engagée au conseil d'administration. Donc, je n'ai pas l'impression de dire au revoir complètement au projet. J'ai l'impression que je vais pouvoir grandir ailleurs et apporter tous ces nouveaux apprentissages à Entourage. Donc, ça, c'est chouette.
Et comment ça se passe, une transmission dans le cadre associatif ?
On y a pas mal réfléchi avec Jean-Marc, du coup, le fondateur et président d'Entourage. Moi, clairement, je n'avais pas développé tout ça ces 7 dernières années pour risquer de le mettre à risque au moment de la transition. Donc, la première chose que j'ai dit à Jean-Marc, c'était qu'on allait prendre le temps de trouver la bonne personne. Il n'y avait pas de date butoir, il n'y avait pas de préavis.
Ils avaient à nouveau fait marcher le réseau.
Ouais, donc on a fait marcher le réseau. C'est via un de nos administrateurs qu'on a réussi à trouver la perle qu'est Marie-Flore, la nouvelle directrice d'Entourage. Mais voilà, on s'était vraiment dit, en fait, moi, je n'étais pas pressée, j'adore toujours autant Entourage, je pouvais encore rester sans problème plusieurs mois de plus. Donc, on a vraiment pris le temps de trouver la bonne personne, de la faire valider par les membres du CA, de la faire valider par les membres du comité de la rue hein, qui participent à tous nos process de recrutement chez Entourage et puis par certains membres de l'équipe salariée pour s'assurer que ça allait fitter. Et puis, une fois qu'on a trouvé du coup la bonne personne, on a aussi pris le temps de l'onboarder correctement. Donc là, elle est arrivée... il y a plusieurs mois déjà, elle a eu vraiment le temps au début de s'immerger dans nos activités, rencontrer les équipes salariées et voilà, s'imprégner pleinement du projet, d'autant plus qu'elle venait pas du social et c'était un choix très fort pour nous. Hein. Entourage, on veut être tourné vers la société civile, embarquer le grand public, embarquer les entreprises, garder notre ADN digital de manière très forte aussi. Donc, on était très clair sur le fait que pour que ça reste vivant, il nous fallait quelqu'un qui arrive avec un œil neuf et qui ne soit pas déjà dans le sérail. Mais du coup, ça nécessite aussi qu'elle puisse s'onboarder
sur ces sujets.
Voilà, sur ces sujets. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a travaillé un plan de passation avec, en plusieurs étapes. Ce qui fait que, voilà, là, je suis au moment où je vais quitter, puisque je quitte définitivement dans 2 semaines. Et. Qu'elle est clairement aux manettes et adoubée par tout le monde. Et donc, c'est hyper confortable pour moi.
Surtout
de me
par
dire
le comité de la rue.
Par le comité de la rue, par les salariés, par le conseil d'administration et par tous nos partenaires externes. Et ça, j'avoue que c'est une grande satisfaction pour moi aussi.
Ça peut être déstabilisant, d'ailleurs, j'y pense. Enfin, je me projette juste parce que, bon, j'imagine qu'à ce niveau, tu es rompu à l'exercice des entretiens, des questions qu'on peut te poser pour ce type de poste, mais que ça doit peut-être être plus déstabilisant d'arriver devant le comité de la rue, qui a peut-être d'autres questions, en fait, que celles qu'on a l'habitude d'entendre de manière très classique en entretien.
Ah ben ça c'est clair, mais ça c'est même pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à Marie-Flore du coup.
Parce que toi t'as pas eu le droit à ça, mais...
non mais ça c'est sûr que le comité de la rue, ils vont pas demain Martin quand ils ont des choses à dire.
Ouais.
Donc,
mais c'est ce qui fait aussi la réussite du projet.
Exactement.
C'est ce qui fait la beauté du projet.
Exactement, et donc nous, pour nous, on est très clair sur le fait que si de toute façon... Si les personnes qu'on recrute ne sont pas prêtes à se laisser bousculer par cette rencontre-là...
Ça marchera pas.
Ça marchera pas, en fait. Parce que le comité de la rue, il est présent au quotidien dans l'équipe. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette parce que je suis sincèrement assez heureuse et fière de ce qu'on a réussi à faire ces dernières années avec Entourage. Mais j'ai cette fierté supplémentaire de me dire qu'on a aussi réussi la transition et que du coup, l'avenir d'Entourage est entre de bonnes mains.
Avant qu'on passe à la suite de cette émission, est-ce que tu as une dernière rencontre, une dernière histoire dont tu voudrais nous parler hein que tu as eu grâce à Entourage, un coup de cœur ?
Ah bah, il y a beaucoup de membres du comité de la rue avec lesquels j'ai noué des liens extrêmement forts. Je pourrais parler, j'ai déjà parlé un peu d'Éric, qui a une histoire vraiment incroyable. Je vous laisserai du coup la découvrir, taper son nom, Éric de Villers, sur Google et vous serez surpris des contenus que vous allez trouver sur lui parce qu'il a une histoire pas banale et tous les jours, il nous étonne encore davantage. Il y a Elina Dumont aussi. Qui est une ancienne sans domicile avec laquelle j'ai un lien très fort et que je trouve vraiment extraordinaire. Extraordinaire dans sa force, extraordinaire dans ses vulnérabilités aussi. Et je pourrais citer tous les autres membres du comité de la rue, je choisis ceux-là parce que voilà, il faut choisir. Mais sinon, j'aimerais bien parler peut-être d'une rencontre plus récente que je n'ai pas faite grâce à Entourage, mais parce que Entourage m'a préparée pour cette rencontre-là, qui est la rencontre avec Maggie, qui est une femme sans papier, qui dort à la rue avec ses 2 enfants. Je l'ai rencontrée récemment et comme j'ai un peu plus de temps, j'essaye de l'aider dans ses démarches. Ses enfants ont le même âge que les miens, donc je pense que ça m'a particulièrement touchée aussi. Et ça m'a permis de prendre vraiment conscience d'une manière nouvelle de ce problème des familles à la rue. Il y a près de 3000 enfants qui dorment dehors chaque nuit. C'est en augmentation très forte. Et bien sûr que je le savais puisque je lis tous les jours des rapports sur le sujet et que moi-même j'utilise ce chiffre. Mais le jour où j'ai rencontré Maggie et ses 2 enfants, ça a arrêté d'être des chiffres.
C'est devenu des vrais gens.
Et en fait, le problème des chiffres, c'est que les chiffres, ça réveille pas le cœur. Les rencontres, ça réveille le cœur. Et du coup, Voilà, moi en tout cas, j'ai une vigilance particulière sur ce sujet-là. Il n'y a pas de solution qui existe aujourd'hui pour accueillir ces familles. Il y a un vrai besoin de solidarité citoyenne et de mobilisation citoyenne parce que l'État ne va pas réussir à débloquer les solutions qu'il faut. Donc aujourd'hui, j'invite ceux qui m'écoutent peut-être à se rapprocher d'associations comme Utopia 56 qui font de l'hébergement citoyen ou comme les bureaux du cœur aussi qui utilisent les locaux d'entreprise pour trouver des solutions d'hébergement pour les personnes qui sont à la rue. On est tous une partie de la solution. On peut tous faire un petit geste y compris concret comme celui-là pour aider chacun à dormir au chaud. Et puis surtout, j'invite chacun à ne pas se contenter de lire les chiffres dans les journaux, mais d'aller à la rencontre des personnes, parce que c'est comme ça qu'on réveille son cœur. C'est un peu naïf ce que je dis, mais c'est vrai. Il faut le maintenir vivant, ce muscle-là de la solidarité.
Merci en tout cas pour tes mots qui, j'espère, en inspireront plus d'un. Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de culot avec Entourage ?
Bon, on se l'est dit plein de fois. En vrai, c'est vraiment l'ADN d'Entourage. Hein. C'est vraiment l'ADN d'Entourage de sortir les trucs. Et puis après, on voit ce que ça fait. Oh, peut-être la première campagne de com. Mais ce n'était pas mon coup de culot à moi. La première campagne de com d'Entourage, c'était une campagne sur les billets pour faire connaître l'app Entourage. Mais d'ailleurs, je dis faire connaître l'app Entourage. Mais à l'époque, elle était vraiment...
C'était rudimentaire.
rien ne marchait et tout ça. Mais voilà, TBWA nous avait proposé une campagne un peu choc autour de billets sur lesquels des personnes sans-abri écrivaient « Moi, Pierrot, pour moi, ce billet a beaucoup de valeur, mais pas autant qu'un bonjour. » Et après, on mettait ces billets de banque en circulation. En fait, ce n'est pas autorisé d'écrire sur les billets de banque. Donc, il y avait un côté un peu pirate à cette campagne. Mais rien que le fait aussi d'assumer de faire des grosses campagnes de com comme ça, alors que l'application marchait à peine et qu'il n'y avait pas de communauté sur l'app.
Vous n'êtes pas fait attraper par la patrouille ?
Non, on ne s'est pas fait attraper. C'était peut-être pas... Non, alors, je dirais peut-être pas mon premier coup de culot, mais oh, c'est des financements, en fait, je crois. C'est des financements sur lesquels on est allé. Par exemple, Linked Out. Donc, on a lancé Linked Out en juillet 2019, en campagne de com, il n'y avait pas encore grand-chose derrière. Et puis, on a entendu parler d'un gros appel à projet du ministère du Travail pour financer l'innovation dans l'accès à l'emploi des plus précaires. Et on s'est dit qu'on allait postuler et il n'y avait rien, quoi. C'était vraiment une coquille vide, Linked Out. Mais en fait, on a tout misé sur la force du nom et le côté smart du nom qui allait nous faire gagner. Et on a gagné 1,6 million.
Ah ouais. Alors
qu'à l'époque, ce n'était même pas le budget de l'association. Et on y est vraiment allé au culot. On a postulé en 2 semaines. Et puis voilà, on n'hésite pas aussi, quand on a des gros oraux, de gros pitchs comme ça, on n'hésite pas aussi à faire des trucs un peu marrants pour être sûr qu'à la fin de la journée, quand le jury va repasser sur tous les projets qu'il a vus, il se rappelle de nous.
Ils étaient smart.
Exactement.
Est-ce que tu te souviens de ta première nuit blanche ?
Ma première nuit blanche pour Entourage. Alors, j'ai un souvenir très clair. Ça va encore parler financement, hein, mais bon, c'est souvent aussi le lot des entrepreneurs qui démarrent. Mais on avait postulé à la France s'engage. Je ne sais pas si certains connaissent. On pouvait gagner sur le prix du grand public, là. Et donc, il nous fallait un maximum de votes. Mais vraiment, on a tout arrêté pendant des jours et des jours pour aller faire voter des gens. Et j'ai le souvenir de Claire, la dircom de l'époque, et moi, qui on s'incrustait à des soirées dans lesquelles on n'avait rien à faire pour faire voter les gens. On faisait un stand, quoi. On s'arrêtait à un endroit dans la soirée, puis on prenait tous les gens les uns après les autres, et puis on les faisait voter, quoi. On les fait venir mais des soirées où on s'incrustait littéralement. Donc, j'ai des souvenirs comme ça, ouais.
Ça faisait une pierre deux coups. Ils te votaient et en plus, tu leur pitchais l'entourage.
Exactement,
télécharger
c'est
l'app
ça.
Après.
Voilà.
C'est comme ça, en fait, que vous avez commencé à acquérir des nouveaux...
Exactement, voilà, c'est ça.
Allez, une petite dernière. Ta première déception.
Oh, la première déception, mais après coup, d'ailleurs, ce n'est pas une déception, c'est un apprentissage. On avait essayé très tôt de monter un partenariat avec ATD Carmonde, qui était venu nous voir pour faire un partenariat sur l'app. Et en fait, en vrai, on n'aurait jamais dû accepter ce truc-là. C'était beaucoup trop tôt. Notre produit, il n'était pas atterri. Notre stratégie partenariale, elle n'était pas atterrie. On n'avait pas de notoriété. Et du coup, ça a donné un truc un peu foireux qui n'était pas bon pour eux, pas bon pour nous. Ce n'est pas vraiment une déception parce que c'est là-dedans qu'on apprend vraiment. Mais voilà, c'était le premier projet foireux, disons.
C'était à refaire, tu le ferais pas. Tu dirais pas oui, forcément.
Je suis sûre que je redirais oui. mais ce serait pas... Parce que sur le moment, c'est super enthousiasmant, en fait. Et puis, c'est une super belle asso à TD Quart Monde. Donc, on croit qu'on va réussir à le faire. Mais non, c'était pas une bonne idée.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Tu nous as dit tout à l'heure que, en sortant d'école de commerce, tu ne voyais pas aller bosser dans un gros corpo. Et avant, tu rêvais de quoi ? Tu avais envie de faire quoi quand tu étais petite ?
Alors, quand j'étais petite, mes parents me le rabâchent assez souvent. J'avais deux voies professionnelles pour l'avenir qui étaient mannequin ou premier ministre.
Ah oui !
Donc, mon physique ne m'a pas permis d'être mannequin. Et je pense que j'ai fini par assez rapidement par réaliser que Premier ministre n'était finalement pas une position tellement confortable.
Tu regrettes pas ?
Ah non, je
ni
regrette
l'un ni
pas.
L'autre.
Non.
Et qu'est-ce qui t'attirait dans le fait de devenir Premier ministre ou mannequin d'ailleurs ?
Alors, mannequin, franchement, aucune idée.
Peut-être le fait de voyager ?
Alors, je sais pas, je devais avoir une haute estime de moi, j'en sais rien. Mais non, c'était peut-être juste une blague quand j'étais petite, j'en sais rien. Et Premier ministre, je me rappelle bien qu'à l'époque, j'avais compris de nos institutions que le président, en fait, il faisait pas grand-chose, il choisissait le Premier ministre et que c'était le Premier ministre qui avait vraiment les mains pour agir. Et du coup... je pense que j'avais quand même déjà envie de changer les choses. Et donc, je me disais, en fait, il vaut mieux être Premier ministre que président. Bon, après, j'ai grandi, j'ai compris que ça ne se passe pas exactement comme ça.
Ça dépend aussi de quelquefois du président et du Premier ministre.
Mais aujourd'hui, non, j'ai tendance à penser que entrepreneur dans le social, c'est un très bon endroit pour changer les choses avec plaisir, envie, liberté créative. Ouais, c'est le feu quand même, c'est chouette.
Alors, depuis le début de cette émission, tu nous as beaucoup parlé du fondateur. Et à ce propos, j'ai une question pour toi.
Vous avez un message.
Alors Lucie, est-ce que quand tu vois Jean-Marc Potvin, tu restes toujours aussi impressionnée comme je le suis ?
Donc c'est donc une question de Jérôme Mercier qu'il te pose, dans la fourmilière de Vivatech, d'où ce petit bruit ambiant derrière lui.
La réponse est oui. La réponse est oui, et je dirais même impressionnée de manière nouvelle. Parce que du coup, avec Jean-Marc, donc, on ne peut pas parler de l'histoire d'Entourage sans parler de Jean-Marc. C'est vraiment lui qui a eu l'inspiration de créer Entourage et l'impulsion et la force d'y aller, avec un parcours qui ne le prédestinait pas du tout à ça. Et moi, mon rôle à moi a été d'être la bonne sparring partner pour Jean-Marc et peut-être avoir un peu plus les pieds sur terre et le sens des réalités pour après faire atterrir le projet dans une forme concrète qui allait bien fonctionner. Je me suis régalée quand même dans ces 7 années de collaboration avec Jean-Marc. Évidemment, quand on a un duo comme ça, on finit par se connaître par cœur, voilà, avoir une capacité à se comprendre et au bout d'un moment à s'aligner, qui est vraiment chouette, à être énervé aussi par les défauts de l'autre et tout ça au bout d'un certain temps. Donc, je dirais que je suis impressionnée par Jean-Marc toujours et de manière complètement différente maintenant. Mais la profondeur de sa vision de société, la générosité de ses engagements et la droiture de sa colonne vertébrale sont des choses qui continuent à m'impressionner fortement.
Il y a d'autres entrepreneurs qui t'ont inspiré dans ton parcours ?
Alors moi, je dois dire que je suis assez bluffée par les fondateurs de Yuka.
Ouais.
Déjà parce que c'est quand même une réussite incroyable en termes de nombre d'utilisateurs, etc. Mais en plus de ça, parce qu'on sent un alignement sur la vision fondatrice, etc. Et que il pourrait facilement avoir les sirènes de la profitabilité, etc. qui résonnent, mais non, eux, ils restent très focalisés sur l'impact qu'ils veulent avoir, le fait de rester petits, le fait de garder un modèle économique qui soit aligné avec l'indépendance dont ils ont besoin pour faire leur mission correctement. Et du coup, je trouve assez remarquable la manière dont ils restent vraiment solides sur leur socle, quoi.
C'est une activité que tu suis de près, leur évolution ?
De près, oui et non. Déjà, comme utilisatrice de Yuka moi-même, ouais. Je trouve ça quand même bien pratique et je m'en sers assez régulièrement pendant mes courses. Et puis oui, dans le milieu de l'entrepreneuriat à impact, on entend souvent parler d'eux. Moi, je suis au comité d'investissement d'Investirez Plus, qui est un fonds d'investissement qui a investi dans Yuka aussi. Donc du coup, j'ai des nouvelles par ce biais-là. Mais c'est vrai que voilà... Julie Chapon, elle fait pas mal de podcasts et tout ça. Et j'écoute très souvent parce que je trouve qu'elle est inspirante à la fois dans voilà, son assurance, son humilité, mais aussi, surtout, à quel point ils restent voilà, centrés sur leur vision initiale. Ils n'en dérogent pas et le succès ne leur monte pas à la tête.
Selon toi, qu'est-ce qui a fait la femme que tu es devenue aujourd'hui ?
Bon, l'ensemble de ces expériences... L'ensemble de ces expériences vécues, vraiment quand même, tout le parcours professionnel après l'ESSEC m'a beaucoup forgé. Ces années au Mali m'ont forgé d'une certaine manière. Ces dernières années chez Entourage m'ont complètement développé autrement, avec plus d'ambition, plus d'assurance au niveau professionnel. Je reste quelqu'un qui doute quand même beaucoup d'elle-même, qui a souvent le syndrome de l'imposteur. Ça m'a fait marrer d'ailleurs d'entendre ça aussi dans le témoignage de Jérôme Mercier. J'avais pas l'habitude de l'entendre se livrer sur cet aspect-là de lui. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas le seul à avoir ce mode de fonctionnement-là et que c'est des modes de fonctionnement surtout qui n'empêchent pas d'avancer. Au contraire, voilà, c'est riche aussi, en fait, parce que c'est ça qui permet, en fait, de prendre les bonnes décisions.
Et qui drive, en fait, finalement, ton parcours de vie au-delà de ton parcours de vie professionnel.
Exactement. Et je pense que c'est ça qui permet aussi de s'appuyer sur les bonnes personnes quand on en a besoin. Parce que du coup, de fait, j'ai l'impression d'avoir un certain nombre de personnes dont je valorise pas mal les avis et de leur demander régulièrement. Et oui, ça me permet de prendre des décisions éclairées.
Tout à l'heure, tu en as parlé rapidement. Tu as deux enfants. Comment tu leur as expliqué ces 7 dernières années ce que tu faisais ?
Déjà en les emmenant voir des personnes sans abri dans la rue,
ouais.
En les emmenant à des événements entourage aussi. Et c'est intéressant parce qu'on développe des programmes pédagogiques pour les petits avec Entourage maintenant. Mais du coup, quand je dois expliquer à ma fille de 5 ans pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de toit, et comment ça se fait et comment on peut faire pour les aider et tout ça, bah, ça oblige hein, forcément à trouver les bons mots. Et donc voilà, ça sert après dans le travail derrière, mais... Et puis, j'essaye d'en faire aussi des leviers pédagogiques. Hein. Là, je parlais de Maggie, cette dame avec ses deux enfants qui est à la rue. Je voulais donner des chaussures à sa fille. Et donc, il a fallu que je demande à ma propre fille de renoncer à une paire de chaussures pour les donner à sa fille. Mais je l'ai laissée complètement libre, ma fille. Je lui ai dit, voilà, il y a cette petite fille. Toi, tu as pas mal de paires de chaussures. Elle n'en a pas. Est-ce que tu serais éventuellement prête à lui en donner une ? Mais je te laisse libre. Tu fais comme tu veux. Elle m'a dit, je vais réfléchir. Et puis, le lendemain, elle me dit... J'ai réfléchi, je crois que je vais lui donner. C'était beau, ça m'a touchée. Mon fils, il a 2 ans, donc je n'ai pas encore eu trop l'occasion de lui expliquer.
Oui, c'est encore un peu petit pour comprendre encore. Et tu as mis en place, par exemple, des choses avec l'école de ta fille sur ces sujets-là ? Parce qu'on sait que les enfants... moi, qui ai une petite fille qui a 4 ans et demi, je vois que sur la partie autre sujet, mais gaspillage alimentaire, etc., il les forme. En tout cas, elle rentre à la maison ou protection de la planète. Elle me dit à sa maman, il ne faut pas faire parce que... Je lui dis, mais où tu as appris ça ? À l'école. Et je me dis que ça peut être un super levier aussi pour sensibiliser, parce que souvent, quand on voit le monsieur au bout de la rue qui est sous sa tente, ben, elle pose des questions. Et parents, on peut être un peu démunis quelquefois pour répondre à ces sujets-là.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on commence à développer des outils pédagogiques pour les enfants. Après, ce n'est pas très facile, parce que quand on fait des ateliers là, avec des plus petits, moi j'ai assisté à un il y a quelques mois, et la petite me dit, moi, ma maman, elle m'interdit d'aller parler aux personnes sans abri et tout. Et c'est assez difficile d'expliquer à la petite que sa maman
ne
devrait pas dire ça ou quoi. Enfin, c'est, après, il y a la liberté quand même de chaque parent. Donc, c'est un peu touchy, ce sujet.
Il faudrait des ateliers parents-enfants.
Ouais, en vrai, je pense qu'il faudrait des ateliers parents-enfants. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, je pense. Et après, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment super chouette ces dernières années. C'est de pouvoir aussi emmener mes enfants, comme je te disais, à des événements entourage. Et en fait, c'est tout bête, mais les enfants, ça attendrit tout le monde. Et du coup, moi, je me rappelle de certains événements. Ma petite, elle était petite, elle avait peut-être 6 mois. Et puis, il y avait voilà, des gens qui vivent dans des centres d'hébergement et tout, qui venaient voir ma fille, me parler de ma fille, et de voir à quel point voilà, l'enfance et la petite enfance, comme ça, ça réveille chez les gens du bonheur, en fait. Ça met du sourire. Donc, du coup, moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à emmener mes enfants à des événements entourage, à la fois pour que mes enfants comprennent ce que je fais, mais aussi parce que je vois que quand il y a des enfants, tout de suite, ça met de la joie.
Ouais. Comment tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, tu es en train de prendre, peut-être dans cette phase de passation, comme tu le disais tout à l'heure à ce micro. Ça a été 7 années et demie intenses. Comment tu faisais pendant ce temps-là pour trouver des temps de respiration et d'inspiration?
Je ne l'ai certainement pas du tout assez fait, déjà, premièrement. Je ne l'ai pas du tout assez fait. Mais pendant un certain temps, je n'ai pas eu vraiment l'impression d'en avoir besoin. Dans le sens où ce que je vivais dans mon aventure entrepreneuriale, c'était tellement inspirant, c'était tellement riche. Je me régalais des rencontres, etc. Que du coup, quelque part, c'était ça, ma source d'inspiration.
Ça te galvanisait.
Exactement. Après, on a commencé à faire des trucs un peu marrants, comme je te disais, le skipper, le foot et tout. Et donc, ça m'a ouvert à de nouveaux domaines dans le cadre de mon boulot, mais qui m'ont quand même fait voir autre chose et tout. Donc, ça m'a pas mal nourri. Et après, y a 2 choses auxquelles je pense encore, 3 même. D'une part, mon mari, il n'est pas du tout dans le même domaine. Il est dans le domaine culturel. Il a beaucoup d'amis artistes, chanteurs, comédiens, etc. Et donc, du coup, il m'a beaucoup emmenée dans cet univers-là, dans nos loisirs. Et donc, ça, j'ai trouvé...
Ça te fait une coupure, une respiration.
Ouais, oui, puis c'est, encore une fois, c'est riche, c'est stimulant, c'est nourrissant. Donc, ça, j'ai vraiment de la chance parce que je suis nourrie dans mon boulot, mais je suis aussi nourrie en dehors. J'ai eu 2 congés mat qui ont quand même été des vrais moments où j'ai fait autre chose. Et moi, j'ai vraiment eu à cœur pendant mes congés mat. Et en tout cas, moi, c'est mon rapport au boulot. Je suis très intense dans mon rapport au boulot. Donc, le jour où je coupe, je coupe. Et donc, pendant mes 2 congés mat, pendant 4 mois, je disais, à moins que l'association fasse faillite et se pète la gueule, je ne veux pas entendre parler de ce qui se passe chez Entourage. Je ne veux pas entendre les bonnes nouvelles, je ne veux pas entendre les mauvaises nouvelles, je ne veux rien entendre. Et ça m'a vraiment aussi...
Et t'as réussi?
Ouais, vraiment. Et du coup, c'est...
Et facilement, ou c'était quand même un peu dur de pas...
C'est dur les premiers jours, mais ouais. Alors par contre, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Hein. Enfin, c'est vraiment genre même pas de boîte mail pendant 4 mois, on enlève Slack du téléphone, on sort éventuellement des groupes WhatsApp divers et variés, enfin... Voilà, moi, je sais que si je remets un doigt dedans, après, je repars. Et puis, j'ai fait aussi un programme qui s'appelle le Collège Citoyen, qui est une espèce de programme de formation pour aider des leaders de l'intérêt général à se rapprocher du politique ou même à faire émerger des vocations politiques.
Voilà le lien avec le Premier ministre.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai fait ça l'année dernière et j'ai trouvé que c'était un programme qui était super chouette, qui m'avait ressourcée, qui m'avait fait rencontrer des gens. On aborde plein de thématiques. On a des speakers de très haut niveau qui viennent nous ouvrir à leur sujet. Donc, ça m'a pas mal aidé aussi. Et puis, je trouve que c'est chouette de garder aussi des engagements par ailleurs. Je suis au conseil d'administration d'un fonds de dotation. Ouais. Je suis au comité d'investissement d'Investir et Plus. Et du coup, voilà, avoir des engagements comme ça à côté... Ça permet déjà de nourrir son réseau, mais en plus de ça, de voir autre chose, et c'est assez important.
Et l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social ont leur lot de défis au quotidien. Comment toi, t'as fait pour surmonter les montagnes russes de « Ah, chouette, oh là, c'est la cata !» Hop, c'est bon, on repart.
Alors là, moi, j'ai vraiment une méthode infaillible, c'est l'unité de l'équipe. Nous, on a toujours été une équipe ultra soudée. Et la valeur de l'unité, elle est cardinale. Et ce qu'on met dans unité, c'est pas uniformité. Ça veut pas dire il faut qu'on soit tous d'accord ou il faut qu'on se ressemble tous. Et de fait, avec le comité de la rue, avec le profil de nos administrateurs et tout ça, on a, je pense, des façons de voir les choses parfois assez différentes. Mais on a tous chevillé au corps la conviction qu'il faut qu'il y ait du respect entre nous. Il faut qu'on soit aligné sur le fait que la mission d'entourage, c'est ça qui est important et pas nos intérêts individuels. On n'est pas dans le jugement, on ne se pointe pas les responsabilités du doigt. Et ça, on se l'est vraiment appliqué. J'ai eu l'impression de le vivre ces 7 dernières années. Ce qui fait que les succès ont été des succès partagés et les échecs n'ont pas été la faute d'un tel ou d'un tel, mais ont été des échecs collectifs aussi. Et ça, ça donne une force extrêmement forte. Parce que du coup, il y en a toujours un pour dire « c'est pas grave, si c'est pas cette opportunité-là qui marche, c'est parce qu'il y en a une meilleure qui nous attend. » Voilà, il y a toujours eu quelqu'un dans le lot pour rebooster, pour voir les choses. En plus, on a la chance d'avoir des profils assez optimistes chez nous. Et donc, voilà, il y a toujours...
C'est partie des critères de recrutement.
Et ça, j'ai l'impression... Enfin, moi, je garde pas du tout en mémoire de moments vraiment douloureux, très difficiles à passer ces dernières années. Il y en a eu, des échecs, ouais. Il y en a eu un bon paquet. Mais il y a eu tellement de force et de solidarité dans notre équipe qu'ils ont tous été surmontés.
Et ça, c'est quelque chose que tu as impulsé, toi, parce que tu avais cette vision managériale, ou tu as été accompagnée justement pour mettre cette méthode dont tu parles en place?
Je pense que c'est une valeur fondatrice très importante dans l'organisation. Elle tient beaucoup à cœur à Jean-Marc, et donc il a fait attention de recruter des gens qui avaient cette valeur-là aussi. Oui. Moi, j'ai mis un petit moment pour me l'approprier. J'ai eu la chance d'être coachée aussi ces dernières années dans mon rôle de directrice générale, et du coup, ça m'a beaucoup aidée à prendre de la hauteur managériale, à apprendre aussi. Et ça, c'est un acquis avec lequel je repars pour la suite. En tout cas, c'est
ça. Oui, parce qu'entre le moment où tu es arrivée et après, comme tu le disais, il y a plus d'une soixantaine de personnes, c'est tout à fait la même posture managériale aussi.
Exactement. C'est pas la même posture managériale, mais vraiment, ça, j'y crois dur comme fer à cette importance de l'unité et du coup à l'importance dans les process de recrutement de recruter des gens dont on se dit ils vont venir renforcer l'unité et non pas
diviser. Ça nous fait une transition, mais alors toute faite avec la prochaine rubrique. Qui est celle-ci.
Parce que c'est notre projet !
Tout à l'heure, tu nous as dit que tu voulais être Premier ministre quand tu étais petite fille. Alors, si tu étais Première ministre ou présidente ou ministre du ministère de ton choix, quelle serait la mesure que tu prendrais ou que tu défendrais en premier ?
Alors ça, c'est bien parce que j'ai l'occasion parfois d'aller l'expliquer aux autorités publiques. Sans surprise, je vais répondre que le sujet que je traiterai en premier lieu et avec énormément de moyens et d'importance, ce serait le sujet du lien social, qui est quand même en perte de vitesse extrêmement fort dans notre société.
Que t'expliques comment, toi, selon toi?
En fait, c'est un peu le pendant négatif de tout ce qu'on a construit comme modèle de société autour de la performance, qui du coup dévalorise très fortement la fragilité. Autour du bien-être individuel, on est aussi très dans un mode où on cherche le bonheur individuel, on cherche le confort individuel, etc. Donc il y a quand même quelque chose d'assez profond dans le modèle de société qui est couplé sans doute aujourd'hui avec aussi l'évolution des modes de vie. Netflix, on reste chez soi maintenant, on consomme des contenus chez soi plutôt que d'aller au cinéma, on se fait livrer un Deliveroo plutôt que de sortir au restaurant. En fait, on ne se rend pas compte, mais on fait des visios maintenant et on fait du télétravail. Ça a plein d'avantages, mais ça fait reculer partout les interactions. Je lisais une stat il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'aux États-Unis, en 2003, les gens consacraient 60 minutes par jour à leurs amis, à leurs relations sociales. Et 20 ans après, c'est passé à 20 minutes par jour. C'est-à-dire qu'ils ont divisé par 3 le temps qu'ils passent chaque jour à avoir du lien social avec leurs amis. Donc voilà. Mais c'est un sujet qui était bien compris pour les personnes âgées. Je pense qu'on parlait beaucoup de l'isolement des personnes âgées. On ne pensait pas que c'était un sujet de société très large. Ça a un peu plus émergé avec la crise Covid. Mais aujourd'hui, là, il y a des signaux qui montrent que c'est un vrai sujet et dans tous les pays développés. En avril, l'Union européenne a lancé une consultation très forte sur le sujet du lien social et de la perte de lien social en Europe. Et là, c'est l'OMS qui a lancé une commission sur le lien social comme enjeu majeur et urgent de santé publique, puisque partout dans le monde, le lien social recule, que ça a des impacts très forts sur la santé mentale des personnes, mais aussi sur la santé physique des personnes. Il est démontré que être isolé dans la société, être tout seul, ça équivaut à fumer 15 cigarettes par jour en termes d'impact sur la santé. Ça augmente le risque de faire des accidents cardiovasculaires, etc. Donc, ça a des impacts, en fait, très forts sur la santé. Ça a des impacts sur l'éducation et la capacité des jeunes à faire leurs études correctement. Ça a des impacts sur la défiance des institutions. Puisque ben, aujourd'hui, le fait qu'il y ait un recul quelque part de la capacité des gens à se comprendre, à faire confiance aux institutions, ça vient au fait que, aussi du fait qu'ils ont moins d'interactions avec d'autres et que du coup, ben, ils se méfient davantage. Et puis évidemment, ça a des impacts sur la pauvreté, puisque c'est le sujet d'entourage, le lien entre isolement et pauvreté. Donc, il y a déjà des pays hein, qui ont fait des choses assez intéressantes là-dedans. Il y en a qui créent carrément des ministères de la solitude. Je sais que les États-Unis travaillent sur un Social Connection Act pour travailler sur comment est-ce qu'on redynamise le lien social dans la société. Et il serait peut-être pas absurde que les médecins se mettent à prescrire des actions de lien social aux gens qui sont très isolés, puisqu'on voit que ça a des impacts sur la, santé physique des personnes.
Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place en France concrètement sur ce sujet, ou ça reste encore à l'étape d'études et de chiffres et de prise de conscience du sujet.
Moi, je trouve que ça reste assez difficile encore. On voit une vraie prise de confiance. Hein. Moi, il y a quelques semaines, j'étais convoquée à une réunion à l'Élysée avec un certain nombre d'autres acteurs qui travaillent sur le lien social pour justement parler de ce sujet-là et de notre vision de ce sujet-là. Donc, je vois que c'est un sujet qui monte. Dans la réalité, je pense que, en tout cas pour ce qui me concerne sur le sujet des personnes sans domicile, ça reste moins concret pour les gens que d'aller faire des choses du type distribution alimentaire, du type... Et du coup, ça reste compliqué de trouver des financements ou des programmes vraiment d'ampleur pour aller financer ça. Et on est un certain nombre d'ailleurs d'acteurs du lien social à dire, bah voilà, il y a eu des dispositifs extraordinaires pour développer l'innovation digitale et aider les entrepreneurs du digital, tous les labels jeunes entreprises innovantes, les différents programmes d'incubation, les aides fiscales, etc., à quand le programme d'investissement d'avenir sur les métiers du lien social ou sur les actions qui vont permettre de renforcer le lien social en France. Et je pense que ça va venir. Hein. Il y a toujours un temps. Le temps est assez long entre la sensibilisation et le moment où ça se déclenche et ça se concrétise. Je ne vois pas encore du tout assez de concrétisation aujourd'hui.
Et est-ce que dans le temps libre que tu vas avoir dans les prochains mois, c'est un sujet que tu vas continuer à travailler ?
Ah oui, ça c'est certain. Mais déjà que je vais continuer à travailler avec Entourage au sein du conseil d'administration, que j'essaye de vivre moi-même. Hein. C'est des choses... Là, j'ai beaucoup plus de temps pour m'investir dans mon quartier aussi. Je vis dans le 19e arrondissement. C'est un quartier dans lequel il y a des niveaux de socio-économiques très différents. Et il y a certainement des choses à faire pour renforcer encore davantage le lien social et faire qu'il n'y ait pas les bobos d'un côté et les populations des cités de l'autre. Donc oui, ça c'est sûr que c'est un sujet sur lequel je vais continuer à m'investir.
Bon, tu seras peut-être la première ministre contre l'isolement.
Alors, entre-temps, je pense que je me suis rendu compte que le politique n'était pas forcément l'endroit le plus confortable pour agir aujourd'hui.
Waouh! Est-ce que tu veux nous partager une de tes claques ? La claque, c'est un peu un moment charnière, ça remet parfois les idées en place. Et une claque, ça peut être un « waouh » positif ou un « waouh » négatif. Mais dans tous les cas, une claque, ça nous fait agir.
Ouais, je vais sortir un peu d'entourage et je vais parler quand même d'une claque que j'ai prise sur l'histoire avec un grand H. Je vais remonter au temps où, du coup, j'étais dans cette association de Gentoli qui travaillait au Mali. Et j'ai vécu, du coup, de près et de l'intérieur, pas mal de grands événements au Mali. Et notamment celui du coup d'État de 2012, puisque le Mali était une démocratie. Et quelques semaines avant les élections, il y a une junte militaire qui a renversé le président ATT et qui a pris les rênes du pays. Ce qui a donné lieu après à ce qui a donné en tout cas une fenêtre d'opportunité à la rébellion Touareg pour s'associer avec les djihadistes et envahir la moitié nord du pays, ce qui ensuite a donné lieu à l'opération Serval pour aller libérer le Mali. Et voilà, je me rappelle en tout cas assez précisément de ce moment où les téléphones ont sonné et les notifications se sont activées pour dire « Oh là là, il se passe un truc l'ORTF, qui est la chaîne officielle au Mali, a été envahie par les djihadistes, etc. » Et ouais, ça a été pour moi une claque de « Ah bah ces trucs-là, ça arrive et ça n'arrive pas que
dans les journaux
ou à la télé, ça arrive pour de vrai. » Et il peut y avoir des basculements de l'histoire comme ça extrêmement importants qui vont changer radicalement la direction d'un pays. On l'a pas vécu en France jusqu'ici et je sais pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, disons que ça peut arriver il faut s'y préparer. Je sais pas, moi, ça me maintient un petit peu en alerte et en point de vigilance en France sur ces sujets aussi de la démocratie et tout ça. Parce que voilà, quand on voit ça arriver dans un autre pays, alors quand c'est pas le sien, bon là j'y travaillais, donc évidemment ça a changé beaucoup de choses pour
sur le projet, j'imagine.
Le projet, la manière de s'organiser et tout ça.
Et vous avez pu maintenir le projet ?
Oui, on a pu maintenir le projet, mais pendant un an, on ne pouvait plus aller au Mali, c'était compliqué. Et puis après, c'est là que ça a commencé à devenir moins marrant, ce que je disais en début d'émission, parce que la menace djihadiste s'est fortement rapprochée de Bamako, et donc on ne pouvait plus aller dans les bars aussi facilement qu'avant. Il y avait des cas d'attentats, il y avait des cas d'enlèvement. Moi, ça m'est arrivé d'aller danser dans un bar le jeudi, et le vendredi, il y a un gars qui vient tuer 15 personnes dans ce même bar. Donc du coup, forcément, soudainement, c'est...
Oui, ça change les perspectives.
Ouais. Et puis surtout de se dire que voilà, le Mali était un pays de paix. Il y a 35 ethnies différentes qui vivent au Mali. C'était vraiment un endroit qui était remarquable au niveau de la coexistence de ces cultures, de ces religions. Et puis tout ça a été balayé en une petite dizaine d'années complètement. Donc, faut y être vigilant quand même. À la démocratie, ça se soigne et il ne faut pas trop s'endormir sur les acquis.
Il faut toujours être vigilant et en alerte sur ce qui peut se passer.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
C'est le moment, Lucie, où je te laisse le micro. Sur une carte blanche, un coup de cœur, un coup de gueule, ce que tu veux. Je te laisse le micro.
Bon, c'est l'année olympique, donc je vais contribuer à ma petite mesure à l'année olympique en partageant avec toi la découverte récente d'une figure du sport qui s'appelle Alice Milia. Qui est une femme qui est aujourd'hui assez méconnue. Je pense que tu ne la connais pas.
Jusqu'à ce que tu m'en parles avant ce début d'émission, non, je ne la connaissais pas.
Moi, j'ai découvert très récemment, car j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Eric Florent et qui vient de créer, il y a quelques années, la fondation Alice Milia. Et Alice Milia, en fait, c'est une dame qui est née à la fin du 19e siècle, qui
en
était
Bretagne,
sportive.
Je crois, j'ai vu tout à l'heure.
Qui était sportive, nageuse, rameuse aussi. Et en fait, qui s'est beaucoup battue pour faire rentrer le sport des femmes dans les instances sportives. Notamment, elle s'est beaucoup opposée à Pierre de Coubertin, qui avait du coup lancé les Jeux Olympiques, mais qui ne voulait pas entendre parler du sport féminin. Pour lui, c'était inintéressant, ça n'avait pas de sens. Et donc, voilà, elle a essayé de faire valoir le sport féminin. Ne trouvant pas l'écoute qu'elle souhaitait, elle a monté les premières fédérations de sport féminin, les premières rencontres sportives féminines et tout ça, jusqu'à réussir petit à petit à faire rentrer le sport féminin et avoir quelques avancées là-dedans. Elle est assez extraordinaire, cette femme. Et la Fondation Alice Milia essaye aujourd'hui de porter en fait cette cause de la place des femmes dans le sport et de la reconnaissance du sport féminin en réhabilitant cette figure d'Alice Milia. Il s'avère que finalement, à la fin, elle a fini par abandonner le combat parce qu'elle a rencontré trop d'obstacles. Elle a repris un boulot de dactylo, donc rien à voir. Et elle n'avait pas d'enfant. Elle est morte dans l'anonymat avec personne pour la faire passer à la postérité, là, jusqu'à il y a peu. Mais voilà, Eric Florent, donc, qui a monté la fondation Alice Milia, souhaite vraiment promouvoir cette cause-là en réhabilitant cette figure, en faisant connaître Alice Milia et ce qu'elle a pu apporter au sport. Il a réussi à avoir de super belles réussites. La statue d'Alice Milia, aujourd'hui, qui est dans le hall du Comité olympique français, à côté de celle de Pierre de Coubertin. Le fait de faire renommer un certain nombre de stades et d'équipements sportifs du nom d'Alice Milia. Et derrière, ce qu'il cherche à faire, c'est pas seulement à la faire connaître elle, mais à réhabiliter les figures sportives françaises.
Féminine.
Et je trouve que c'est assez, assez chouette comme manière d'agir aussi. Se dire, en fait, quand on veut avancer sur un combat, on peut l'incarner simplement de cette manière-là. Ça me fait penser dans mon domaine à moi de la lutte contre l'exclusion à Lucie Coutaz. Je ne sais pas si tu sais qui est Lucie Coutaz.
Non.
En fait, c'était vraiment le bras droit de l'abbé Pierre.
D'accord.
Il n'aurait rien fait sans elle. Lui, il avait les idées, il avait la gouaille, il avait le machin, mais elle, derrière, c'était elle qui déroulait, c'était elle qui délivrait et qui a géré en fait Emmaüs, et personne ne la connaît. Alors qu'il n'y aurait jamais eu Emmaüs si elle n'était pas là. Donc, je trouve que cette manière de réhabiliter aussi des femmes qui ont eu des rôles comme ça majeurs par le passé et qui ont été effacées
de l'histoire.
Par l'histoire, c'est une manière assez belle, en fait, de se battre pour ces idéaux-là, non pas de manière conflictuelle, mais de manière inspirante.
Ben en tout cas, nous, ça nous inspire dans ce 40 nuances de Sista, et la transition est toute faite avec cette dernière partie. Donc, Jérôme, tu as choisi comme Sista. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de projecteur, qui t'inspire, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Bon, il y en a plein, mais je vais choisir une autre entrepreneuse de la social tech qui s'appelle Victoria Mansfield, qui porte un projet qui s'appelle Solinum, qui est une plateforme qui permet aux personnes SDF d'accéder à l'information dont elles ont besoin sur l'ensemble des services où elles vont pouvoir trouver l'aide, qu'elle soit alimentaire, d'accompagnement social, les vestiaires, etc. etc. Et en fait, moi, elle m'épate vraiment, Victoria, parce que c'est un projet qu'elle a monté alors qu'elle était étudiante. Elle est d'école d'ingénieur, elle faisait des maraudes à l'époque, je crois que c'était avec la Croix-Rouge. Et donc, déjà, c'est vraiment de son constat à elle, en tant que maraudeuse, qu'elle s'est dit, en fait, il faut un outil pour permettre aux maraudeurs d'avoir accès à l'information et de pouvoir orienter correctement les personnes. Elle s'est lancée très, très jeune. Elle a développé son projet avec une persévérance que je trouve absolument incroyable. Et je sais ce qu'elle a pu traverser pour avoir moi-même, du coup, cherché à développer un projet digital dans ce monde du social qui n'est pas forcément le plus réceptif à ça. Et je dois dire que son projet est une réussite assez phénoménale, hein, qu'aujourd'hui, c'est une référence pour tout le monde, qu'elle est en train de monter des partenariats avec l'État pour que sa plateforme devienne l'outil qui va permettre un peu à tout le secteur de s'organiser. Et donc voilà, je côtoie beaucoup Victoria et je trouve qu'elle a une force de caractère qui est vraiment admirable et je lui souhaite d'aller loin.
Eh bien, merci pour ce coup de projecteur. Merci à toi pour ce moment d'échange. Pour savoir ce qui est tes futures aventures, on te suit sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, absolument, mon réseau social préféré.
Et ben on te retrouvera sur LinkedIn pour savoir et connaître la suite de tes aventures. En tout cas, merci d'être venue nous parler d'entourage et merci de parler autant avec ton cœur sur tous ces sujets. Lucie, je te propose qu'on se quitte sur quelques notes de musique. Tu nous as grandement parlé d'Éric De Villers tout à l'heure. Tu nous as incité à aller taper son nom sur Google pour découvrir sa vie formidable. Éric, il a rencontré Vianney quand il était dans la rue. Vianney était dans la même association qu'Éric fréquentait. Et il trouvait qu'Éric écrivait bien. Et il lui avait dit un jour, on ferait une chanson ensemble. Et cette chanson, elle est sortie. Et on va du coup en écouter quelques notes pour nous quitter. Merci encore, Lucie.
Merci, Solène.
N'hésitez pas à aller télécharger l'app Entourage et à les suivre et à les soutenir. Merci à tous. À bientôt.
Au revoir.
Vous êtes vivants, nous survivants. La vie est cruelle, pour certains si belle. On n'a rien ou si peu, mais votre cœur peut, en un simple sourire, évitez notre dernier soupir. Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, nous sommes debout. Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, nous sommes debout. Des moins que rien, et rien ne vaut la main tendue de bon matin. Y a pour nous tellement d'amour caché dans un bonjour. Y a pour nous tellement d'espoir.